Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Vous écoutez en rediffusion Le Québec maintenant.
Un petit peu de musique nostalgique, le fameux Take Me Out to the Ball Game. Est-ce que c'est la version de Fernand Lapierre à l'orgue? Oui, tout à fait. C'est celle-ci qu'on entendait au Parc Jarry d'abord, au Stade Olympique par la suite. Si on décide de faire jouer cet extrait, bien sûr, c'est qu'il y a une nouvelle très importante qui a été annoncée aujourd'hui à propos du Stade Olympique. Le gouvernement du Québec qui investira 870 millions de dollars pour remplacer la toiture du stade et remplacer également l'anneau technique. On attendait cette décision dans la première moitié de 2024, ça arrive quand même raisonnablement tôt, là, dès le début du mois de février. Il y a quelques minutes à peine, là, un peu plus d'une heure, j'ai discuté de tout ça avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et le PDG du Parc olympique, Michel Labrec. On écoute ça ensemble. Caroline Proulx, Michel Labrec, bonjour.
Bonjour, M. Grappin.
Bienvenue, bienvenue en studio. Dites-moi, Madame la ministre, c'est une décision aujourd'hui qui était attendue depuis longtemps, mais j'ai l'impression aussi que c'est une décision qui suscite la controverse. On le sait, les besoins financiers sont énormes au Québec. Nos écoles sont, pour nombreuses d'entre elles, en décrépitude. Les banques alimentaires sont dans le besoin. Il y a des demandes de financement partout. Comment vous allez réussir à vendre cette idée-là dans un contexte pareil d'investir près d'un milliard de dollars dans le stade olympique?
La première réponse que je vous donnerais, c'est que ceux qui préconisent l'idée de démanteler, de déconstruire le stade olympique, minimalement, c'est 2 milliards de dollars.
Ça, vous l'avez vérifié?
Oui, les équipes de Michel. Michel, peut-être que tu peux embarquer là, sur le détail concernant donc la déconstruction du stade, mais c'est près de 2 milliards de dollars. C'est une décision qui est mature et qui est réfléchie. Il y a un potentiel énorme à travers le stade pour l'Est de Montréal, mais pour tout le Québec également. Ce qui est important de dire, c'est que ces provisions de sommes-là, je suis quand même ministre du Tourisme depuis les 5 années et demie, ont été provisionnés au fil du temps. Donc, tranquillement, pas vite, on a, avec les équipes de Michel et du Parc, fait des provisions donc pour pouvoir arriver
donc,
avec ce chiffre.
Dans le 870 millions de dollars, ce que vous me dites, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des sommes qui sont
870
réservées.
Sont réservées.
Déjà.
100% des sommes que j'ai annoncées ce matin sont déjà toutes réservées pour le stade. Donc, ce que vous faites allusion donc à l'impact que ça aurait pu avoir sur, par exemple, des écoles ou encore des routes, je tiens juste à vous dire que dans l'enveloppe du PQI, j'ai provisionné...
PQI, donc, on va juste rappeler, c'est quoi? C'est le Programme québécois d'immobilisation?
Exactement. Donc, depuis les presque 6 dernières années, il y avait un petit peu de l'ouvrage qui avait été fait par le gouvernement précédent, 200 quelques millions de dollars. Donc, j'ai provisionné au fil du temps pour arriver donc avec une somme qui est 100% provisionnée aujourd'hui.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où il n'y a pas d'argent neuf là qui n'est pas déjà réservé, qui va être injecté dans ce projet-là. Michel Labrec, on le sait, là, un stade avec un toit qui sera en permanence fermé, donc pas de toit ouvrant. Ça n'a pas toujours été le souhait qu'on a eu. Je me rappelle du rapport Bissonnette en 2012. On avait dit qu'il faudrait vraiment essayer de regarder pour une toiture mobile. Pourquoi on ne peut pas avoir de toiture mobile?
Tout d'abord, quand on fait l'analyse d'affaires, des revenus, les événements de tout type, y compris sportifs, dans le stade, c'est minoritaire. Là. C'est 5% du volume d'affaires total qu'on estime si on parle spectacle, salon, foire et événements sportifs. NFL, entraînement, match de la MLS, même le football, tout ça. Bon, deuxième élément, le stade olympique a été construit selon les plans d'un architecte, M. Roger Taillebert, et la toiture est tenue par la tour à 75% et par les 38 consoles à 25%. On peut pas mettre un toit par-dessus là qui va s'ouvrir de d'autres façons que l'approche de M. Taillebert. M. Taillebert l'a fait dans une petite piscine dans le 12e arrondissement, la piscine Carnot, Charles de Gaulle, 8 fois plus petite. Quand on a reproduit ça, c'était prototypal. Ça a déchiré, ça a pas fonctionné. Donc, la seule façon qu'on a envisagé, puis on l'a analysé, c'est est-ce que les nouveaux matériaux nous permettraient de refaire la toiture de M. Taïban? Non. Il n'y a pas de gain technologique en termes de Kevlar. On avait des soucis, fibre de verre. Donc, on a abandonné cette idée-là d'une toiture parce que si elle devait être rétractable, comme à Vancouver, à Varsovie, Mercedes-Benz Stadium, tous les stades qu'on a étudiés, c'est à l'horizontale. Faudrait couler des pieux, mettre des structures de métal. Fait que c'est, on a oublié ça. Un pont roulant, on a oublié ça.
Bon. Madame Proulx, on oublie ça, mais ça nous met pas un peu en porte-à-faux avec les développements technologiques partout dans le monde. On n'est pas, on va mettre $1 milliard, puis nous, on n'est pas capable d'avoir un toit qui s'ouvre et qui se ferme, ce qui est le cas maintenant d'à peu près tous les grands stades.
Oui, mais on a changé la loi en 2020, Michel, qu'on a changé
oui,
la
2020,
loi, parce qu'on était encore sur la régie des installations olympiques. Maintenant, on a une société de développement et de mise en valeur du parc olympique. La mise en valeur du parc olympique, d'aucune façon je viendrai faire ou poser une cicatrice sur un bâtiment patrimonial, architectural. C'est la signature du Québec à l'international. Je veux dire, on atterrit, on passe au-dessus du stand. Le Grand Prix de Formule 1 du Canada, on a évidemment des images du stand. C'est la marque de commerce du Québec. Donc, un, il était hors de question qu'on fasse une cicatrice comme celle-là. Et comme Michel le dit, il n'y a pas d'événement qui exige d'avoir un opercule. Même la FIFA, l'année passée, a dû fermer son toit rétractable puis mettre de la climatisation. Et malgré tout, ils ont dû fermer le toit parce que c'était beaucoup trop chaud. Donc, puis des assurances, ça aurait été extrêmement compliqué. Donc, à ce moment-là, on a une toiture. Mais comme vous avez peut-être vu ce matin à la conférence de presse, il y a un pourtour qui est en verre, donc il va permettre de faire entrer la lumière et le soir, comme le souhaitait Taïber, ça c'est toi qui m'as appris ça.
Les lanterneaux de la toiture de Kevlar, il était translucide aussi pour laisser passer la lumière, donc il y avait cette idée-là, là ça va être tout le tour il va y avoir donc tout le tour de l'anneau technique, du verre translucide pour laisser passer la lumière. Mais je regarde, il y a des stades qui sont en train d'être recouverts pour opérer. Nous, l'objectif, moi je l'ai dit ce matin, puis je le répète, là on vient de... Il y a une décision qui est prise. On remplace la toiture. Nos équipes de développement des affaires là, vont pouvoir avoir une date, vont pouvoir recommencer à voir les équipes professionnelles de sport, vont pouvoir regarder les nouvelles technologies des gazons artificiels. Et on va pouvoir regarder les gazons naturels éclairés par des lampes mises sur des... Fait que je peux vous dire que l'équipe qui est en modernisation en matière de gazon, là, sont pas mal bons, et dans le sens qu'on est convaincu de ramener dans un cycle relativement court une équipe professionnelle dans le stade.
Ah oui?
Oui.
Vous pensez vraiment qu'une équipe comme le CF ou les Alouettes pourrait être intéressée? Ou même une autre équipe?
Oui, ou une équipe de soccer féminin, ou une équipe de rugby, ou une équipe qui a une empreinte qui n'est pas de 80 matchs comme à l'époque du baseball. On n'est pas là, là, les promoteurs baseball, on n'est pas là avec un demi-club, mais je suis convaincu que d'ici sur un cycle de 10 ans, oui.
Bon, Madame Proulx, la question plate. Est-ce qu'on est sûr que ça va fonctionner cette fois-ci?
Oui, mais on le disait, puis depuis qu'on travaille ensemble, Michel et moi, on ne peut pas se tromper cette fois-ci, ça c'est clair. Tu sais, toute l'aventure olympique...
Mais mettez-vous sûr à 100% que ça va fonctionner.
Ben, c'est-à-dire que c'est tellement travaillé en amont depuis 5 ans et demi, avec un appel à qualification, avec un concept de référence. Tu sais, quand on a fait l'appel à qualification à l'international pour trouver ce fameux consortium Pomerleau-Canam, il y avait un concept de référence qui était présenté. Donc, c'était pas n'importe quoi. La structure de la toiture, ce avec quoi on souhaitait avoir un dépôt de candidature était présenté à l'international. Quand Pomerleau-Canam a déposé et que, à travers le processus extrêmement rigoureux, ils ont été choisis, il y a une connaissance de cause de la structure qu'ils devront démonter et celle qu'ils devront monter. Ce qui est complètement différent des deux épisodes de 99 et de 88.
87-8.
C'est complètement différent. Là.
Et là, on va être capable de faire les travaux sans, par exemple, évacuer la tour de tous ces bureaux la construction.
Oui.
Rester là et travailler pendant les travaux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Le centre sportif va fonctionner. Les événements à l'extérieur sur l'esplanade vont fonctionner. Les gens des camions de les premiers vendredis étaient là. Ça va avoir lieu. Les festivals, Fuego, Half Moon Run fait un festival sur le stationnement du P5 ou le terrain de pratique du CF puis des Alouettes au-dessus du P5 Vio. Ça va avoir lieu. Toutes les activités du biodôme, du planétarium vont avoir lieu. Donc, on poursuit. Donc, conséquemment, la plupart du travail du chantier va se faire à l'intérieur du stade. Un petit peu sur le sud de la tour, là, mais donc ça nuira pas à aucune autre activité. Et on va réinaugurer l'observatoire avec la sortie sur le toit, avec la nouvelle passerelle vertigineuse pour le 50e.
Ça, c'est quand tout sera prêt.
Ben, le 50e anniversaire en 2026.
C'est ça.
Avant même que la toiture soit complétée, parce que le cycle de la toiture, l'échéancier est actuellement de 4 ans, fin 2027, puis ça va permettre de remonter une programmation 2028.
Bon, une programmation 2028, Mme Proulx, vous avez fait beaucoup réagir là, quand vous avez dit qu'on manque beaucoup de retombées économiques à Montréal parce qu'on n'a pas un stade avec un toit. Vous avez notamment évoqué la tournée de Taylor Swift en disant « Regardez, Toronto là, Vancouver là, mais nous, on l'a pas ». C'est bien beau, tout le monde aimerait voir Taylor Swift ou d'autres grands artistes à Montréal, mais il y a un problème et c'est le problème de la sonorisation. Il y a d'autres problèmes, l'éclairage aussi. Est-ce que c'est dans 870 millions, ça, ou j'imagine que non? Alors, ça va coûter des sous. Est-ce qu'on va refaire ça? Combien ça va coûter?
En fait, Michel, puis tu l'as très bien expliqué ce matin, au niveau de la toiture extérieure, il y a une toiture à l'intérieur également. Il y a la sonorisation.
Puis il y a l'acoustique.
Et il y a l'acoustique. C'est deux choses complètement différentes. Maintenant, l'acoustique, c'est clair qu'il va être amélioré. Il va avoir donc cette fameuse structure intérieure qui va permettre beaucoup moins de réverbération. C'est vrai que le temps de voyage d'une note du concert en plein milieu jusqu'en haut, là, on frise à peu près les 16 secondes. Alors, il y a un temps extrêmement réduit qui va être effectué uniquement par le remplacement de la toiture.
Est-ce que c'est suffisant?
Et de sa couverture.
Pour avoir une sonorisation acceptable pour les grands artistes internationaux?
Mme Proulx vient de parler de l'acoustique. Après, on bascule en sonorisation.
Oui.
Et ça, on a des budgets dans une trésorerie déjà capée au sens de, pareil, l'éclairage.
Déjà provisionné.
On a des lampes au mercure, vont être remplacées par DEL, là, que les gens appellent LED, là, les diodes électroluminescentes. Oui, ça va être fait. Et progressivement, comme on a fait pour la tour, hein, sur un cycle 2014-2024, ben on va procéder aux améliorations. Moi, je donne une métaphore domiciliaire. On n'a pas investi parce que le toit coulait comme chez vous. Vous refaites pas le plancher de bois franc, vous changez pas les tapis, vous changez pas les fauteuils parce que ça coule. Puis le monde nous aurait dit, mais vous êtes fous? Qu'est-ce que c'est ça, là? Les concessions alimentaires, c'est ringard. Mais là, on a, avec la nouvelle loi que Mme Proulx a fait adopter, la possibilité d'aller chez un fournisseur et dire, veux-tu débarquer avec nous pour 10-15 ans? Veux-tu mettre 2, 3, 4 millions dans les concessions puis te rattraper sur tes hot dogs puis ton tofu puis tout ça? Fait que ça va changer. Le partenariat privé va être possible également avec la nouvelle loi. On va pouvoir dire à quelqu'un, veux-tu, comme au Millennium Park de Chicago, veux-tu embarquer avec nous autres puis ton système de son? Hein? Le son propulsé par... Fait que ça, c'est des affaires qu'il faut voir. Mais tant et aussi longtemps qu'on avait ce foutu toit, vous le changez, vous le changez pas, qu'est-ce que tu veux?
Ce toit que Mme Bissonnette appelait la toiture avec un T majuscule, hein, il faut le mentionner. Mme Proulx, dernière question. On a appris là cette semaine le calendrier de la Coupe du monde de soccer de 2026, qui est en Amérique du Nord. Montréal était sur les rangs. Finalement, le gouvernement du Québec et vous, comme ministre du Tourisme, avez dit non, on embarque pas là-dedans. Toujours heureuse d'avoir pris cette décision-là?
À la lumière de ce que je lis, entre autres, du côté du Vancouver Sun et la FIFA qui demandent en extra du côté de Vancouver de nouvelles salles VIP, des améliorations de concessions, des salles de banquet et des ascenseurs. Tout ça à $1 milliard estimé pour les 3 paliers de gouvernement du côté de Vancouver. Et qu'est-ce qu'ils ont? Parce que la liste est sortie hier. Une 32e et une 16e de finale pour $1 milliard. Je pense qu'on a fait le choix judicieux de mettre nos billes et de travailler au remplacement de la toiture du stade olympique plutôt que de dépenser $1 milliard. Je vous rappelle qu'on était passé en termes de coûts du simple au double. Et les matchs du double au simple, sérieusement, là, c'était Kazakhstan contre Vatican qu'on allait avoir. Puis Mme Proulx a fait « c'est non ».
Merci beaucoup, Caroline Proulx. Vous êtes ministre du Tourisme du gouvernement du Québec. Michel Labrec, PDG du Parc olympique.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
En rediffusion, vous écoutez Le Québec maintenant.
Et c'est aujourd'hui que la ministre responsable du sport au Québec, Isabelle Charest, a déposé son projet de loi pour mieux protéger les jeunes sportifs alors que de nombreux cas d'abus et de harcèlement ont été rapportés au cours des dernières années. Madame Charest est avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Campagne.
Madame Charest, c'est un projet de loi important. Vous annoncez notamment la création d'un nouveau poste, un protecteur des athlètes.
Ouais, ben en fait, il va s'appeler le protecteur de l'intégrité en loisirs et en sport. Donc, oui, ça fait partie des recommandations qu'on a eues suite à différents rapports d'enquête dans différents milieux sportifs, mais ça fait aussi partie des recommandations du mandat d'initiative qu'il y a eu au printemps suite aux événements là, d'initiation dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, de créer cette entité, donc ce protecteur-là, qui évidemment est indépendant, mais qui est aussi incarné par une personne et qui est accompagné évidemment de pouvoirs supplémentaires par rapport à ce que notre officier indépendant des plaintes avait auparavant. Donc, un protecteur qui a plus de mordant, qui va faire en sorte évidemment d'assainir le milieu sportif.
Alors, quels sont ces pouvoirs supplémentaires?
Ben, un pouvoir d'enquête, entre autres. Il peut aussi initier une enquête de son propre chef. Donc, si il est au fait d'une situation de soupçon, donc il pourra déclencher une enquête. Il va avoir le pouvoir aussi de contraindre quelqu'un à témoigner. Donc, le fardeau ne repose plus uniquement sur la victime, de sorte que, bon, s'il y a une personne qui est alléguée avoir des comportements répréhensibles, le protecteur pourra le contraindre à témoigner. Donc, évidemment, des pouvoirs qui sont rehaussés. Et par la suite, puis on sait que l'officier indépendant des plaintes auparavant pouvait émettre des recommandations, mais ensuite, c'était un peu au libre chef des fédérations de les mettre en application ou pas. Les fédérations le faisaient, mais elles auraient pu ne pas le faire auparavant. Maintenant, évidemment, elles devront se conformer. Et si elles ne le font pas, j'ai le pouvoir d'ordonnance. Donc, évidemment, ça va faire en sorte de sécuriser le milieu.
Bon, ce protecteur des athlètes, il pourra pas travailler seul. La personne choisie, ça prend toute une équipe parce qu'elle aura les ressources. Il y a quand même beaucoup de plaintes au cours d'une année. J'imagine beaucoup d'enquêtes à faire également.
Oui, évidemment, il va y avoir tout un organisme. Il va y avoir aussi des employés qui vont pouvoir traiter des plaintes. Donc, on parle de 38 employés qui sont prévus pour la création de cet organisme-là. Mais il y aura aussi un bureau conseil. Puis, on n'a pas parlé encore, mais la loi prévoit maintenant d'inscrire l'obligation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. Donc, il y aura un bureau conseil qui pourra orchestrer tout ça puis pouvoir s'assurer d'une transparence puis d'une communication entre les différentes instances.
Il y avait un certain flou à ce niveau-là sur la vérification des antécédents judiciaires des gens qui travaillent dans le sport, entraîneurs, par exemple.
Ben, en fait, il y avait un certain flou dans le sens que ce n'était pas inscrit à la loi. Donc, ce qu'on avait avec la loi sur la sécurité dans le sport, c'était même pas avec la loi, là, mais on avait instauré avec l'énoncé ministériel que j'ai fait en 2019, il y avait l'obligation aux fédérations qui sont soutenues par le ministère, qui sont soutenues financièrement, elles avaient l'obligation d'adhérer à la politique intégrité dans laquelle il y avait la notion de vérification des antécédents judiciaires. Mais ce n'était pas inscrit à la loi. Là, on vient élargir complètement la portée de cette loi-là. Donc, tous les organismes, même s'ils ne sont pas affiliés à une fédération sportive, auront l'obligation dans certaines situations, puis on pourra y revenir, là, auront l'obligation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires. La même chose aussi pour tout le secteur du loisir qui ne figurait pas dans la précédente loi. Alors vraiment, on vient ratisser très large, en fait, tout le contexte sportif et de loisir au Québec. Et par rapport aux vérifications, puis qui devra procéder ou qui sera assujetti à la vérification des antécédents judiciaires, ça, ce sera déterminé par voie réglementaire. Donc, on fera un gros comité pour voir dans quel contexte une personne est en situation d'autorité, est dans une situation de proximité avec la clientèle vulnérable, où il pourrait y avoir des cas, peu importe, là, de comportement répréhensible. Donc, il y aura toute une réglementation sur qui devra procéder à la vérification des antécédents judiciaires.
Ça va prendre un suivi considérable, là, puisque vous visez tout le sport et tout le monde du loisir également.
Oui, ben tout à fait. Ben c'est sûr que tu sais la notion importante, c'est que maintenant c'est inscrit dans la loi. Donc on sait que quand la loi, nul ne peut ignorer la loi. Donc les organismes auront l'obligation de procéder dans certains contextes à la vérification. Maintenant, une chose qui est importante aussi avec ce projet de loi-là, c'est que on accompagne ça d'investissements financiers importants. Donc, entre autres, bon, tout ce qui est les montants pour la création de l'organisme indépendant responsable du traitement des plaintes, mais aussi une compensation pour les organisations sportives et de loisirs qui devront procéder à la vérification des antécédents judiciaires.
Donc, ce sont des investissements de combien?
C'est de 29,7 millions pour les 5 prochaines années.
Par rapport aux autres juridictions au Canada, Mme Charest, le Québec se situe où avec ce nouveau projet de loi?
Je vous dirais 2 kilomètres en avant des autres provinces.
2 kilomètres, oui.
Bon, à peu près, mais on était déjà en avant de tout ce qui s'est fait ailleurs au Canada avec l'officier indépendant des plaintes. Et là, on vient évidemment y donner beaucoup plus d'assises, beaucoup plus de mordants. On vient aussi circonscrire de façon beaucoup plus large l'application de cette loi-là. Donc, on est vraiment en avant.
Bon, c'est le dépôt du projet de loi aujourd'hui. La loi n'est pas encore adoptée. À quoi ça va ressembler le processus qui va mener à l'adoption de la loi?
Ben, il va y avoir des consultations particulières, il va y avoir tout le processus là pour la mise en place, puis l'adoption, puis toute la patente là qui va se faire. Évidemment, ce qu'on veut, c'est de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir mettre en place la suite des choses. Mais on va suivre le processus là naturel, normal des travaux parlementaires.
Madame Charest, en terminant, on le sait, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a beaucoup moins de bagarres cette saison. Vous vous êtes battue pour limiter, pour décourager les bagarres. Vous devez être quand même assez fière de la tournure des événements, ce chapitre-là.
Je suis extrêmement fière de la tournure des événements. Je suis extrêmement fière de constater, bon, d'une part, que c'est pas vrai qu'il y a moins de monde dans les estrades. Au contraire, il y a plus de gens dans les estrades présentement qu'il y en avait l'année passée, par exemple. Il y a moins de bagarres. Il y a pas plus de coups vicieux, parce que c'est ça, hein, l'argumentaire des réfractaires, c'est qu'ils disaient qu'il y aurait plus de monde dans les estrades, il y aurait plus de coups vicieux, qu'il y aura plus de joueurs dans la Ligue nationale du Québec ou de la Ligue junior majeure du Québec. Bon, évidemment, on oublie que dans la NCAA, il y a pas de bagarres. On oublie qu'il n'y a pas de bagarre. On oublie que dans les championnats du monde, il n'y a pas de bagarre aux Jeux olympiques et tout ça. Mais je pense que le constat est très clair. Les jeunes ne veulent plus se battre. Ils veulent faire leur sport de façon éthique. Ils n'ont pas le goût de tout ça. Ils n'ont pas le goût de s'infliger des blessures dont ils n'ont pas besoin et qui ne servent absolument rien, parce qu'on ne gagne jamais un match par une bagarre. Alors, le constat, pour moi, me rassure et me permet aussi de faire pression sur les dernières ligues au Canada qui ont encore des bagarres, parce qu'ultimement, je pense que...
Ouais, l'exemple du Québec fait jaser, hein, ailleurs au Canada.
Absolument, absolument. Puis évidemment, si tout le monde nous regardait du coin de l'œil pour dire, mon Dieu, ça sera pas applicable, mais évidemment, c'est pas le cas, ça se passe très bien. Et ça, j'en suis très, très fière.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
Bonne journée, Isabelle Charest et ministre des Sports du Québec.
Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
Alors que la ville de Montréal compte seulement 8 radars photo, Valérie Plante souhaite reprendre le contrôle du nombre et de l'emplacement de ces radars photo pour assurer la sécurité des usagers plus vulnérables. J'en parle avec Sophie Moserolle. Madame Moserolle est responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la ville de Montréal. Madame Moserolle, bonjour.
Bonjour.
Madame Moserolle, donc, la ville de Montréal veut faire valoir ses prérogatives dans le dossier des radars photo.
Oui, tout à fait, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, les photoradars, on en souhaite un peu partout sur le territoire. C'est une technologie qui a vraiment montré son efficacité, puis on souhaite vraiment pouvoir en déployer de manière massive sur le territoire de Montréal dans les prochaines années.
Bon, alors vous avez amorcé, j'imagine, des pourparlers avec la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbeault.
Oui, tout à fait. Mais en fait, elle est en commission parlementaire présentement avec le projet de loi 48 là, qui prévoit de d'offrir aux municipalités là, la possibilité d'avoir un peu plus de photoradars. Or, ce que la Ville de Montréal plaide, c'est vraiment l'autonomie là, concernant, comme vous le mentionnez, l'endroit où les déployer, mais aussi le nombre. Juste un exemple comme ça, vous avez mentionné qu'on en a 8 à Montréal. Par exemple, Toronto en a 75 sur son territoire. Donc, il y a vraiment un retard là, qu'on souhaite combler.
Et Toronto contrôle ses propres photoradars?
Oui, voilà. Et ce qu'on souhaiterait aussi, c'est une plus grande flexibilité dans le type de photoradar qu'on souhaiterait avoir. Il y en a qui sont fixes, il y en a qui sont mobiles. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment être en mesure de mettre la bonne technologie au bon endroit pour avoir là, le meilleur effet pour réduire le plus possible les comportements délinquants sur nos routes.
Bon, est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit davantage mobile de façon à créer parfois un effet de surprise chez les automobilistes?
Oui, ben en fait, ce qui est prouvé, c'est que pour qu'un photoradar là, soit vraiment efficace, il faut que les gens y soient confrontés souvent et il faut qu'il n'y ait pas de prévisibilité. Donc, la possibilité de pouvoir les déplacer ou d'avoir des photoradars qui fonctionnent en alternance est une option là, qu'on préconise. Vous savez, à la Ville de Montréal, on travaille extrêmement fort pour atteindre nos objectifs de vision zéro. Ça passe évidemment par des réaménagements. Dans les dernières années, on a déployé des doudans, des saillies de trottoirs, on a notre programme de sécurisation aux abords des écoles. Donc, on intervient sur le territoire, mais on souhaiterait vraiment pouvoir aller se chercher cet outil-là supplémentaire là, pour pouvoir avoir un effet plus coercitif sur les comportements.
Je disais récemment, là, les gens de Piéton Québec qui souhaitent que la limite maximale de vitesse dans les villes partout au Québec soit limitée à 30 km par heure. On le sait, à Montréal, là, c'est pas le cas. Il y a des 30 km, oui, mais il y a également des sections à 40 km, des sections à 50 km par heure. Est-ce que pour vous, c'est une mesure qui est envisageable?
Mais il faut s'assurer d'avoir la bonne mesure au bon endroit, comme je l'ai mentionné. Mais de manière générale, la Ville de Montréal, ça fait plusieurs années qu'on est engagé à réduire les limites de vitesse, que ce soit sur nos rues locales, mais aussi sur le réseau artériel. Et on sait à quel point la vitesse a une incidence sur la gravité des collisions. Donc, de manière générale, on est favorable à ce qu'il y ait une réduction de vitesse le plus générale, principalement, évidemment, dans les zones scolaires, dans les zones là, où il y a des milieux de vie. Mais de manière globale, oui, c'est quand même une intention là, qu'on souhaite mettre de l'avant. Évidemment, il y a certains...
Mais est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a un plan concret là, pour réduire sur certaines artères les limites de vitesse?
Ben oui, à chaque année, là, il y a des réductions de limites de vitesse. On est en train de finaliser là, la réduction des limites de vitesse aussi dans les zones scolaires, ce qu'on a déjà débuté depuis longtemps. On attendra de voir aussi là, ce qui ressortira du projet de loi de Québec là, qui viendra là, imposer différentes dispositions aux municipalités par rapport à ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà là, engagé dans la réduction de la limite de vitesse depuis bien longtemps à la Ville de Montréal. Puis là, ben, on est à mettre en place d'autres types de solutions, que ce soit au niveau des aménagements, puis idéalement, là, comme on l'a plaidé aujourd'hui là, au niveau des photoradars.
Bon, Madame Ozol, on dit que la Ville de Montréal a répertorié 300 secteurs où il y a des collisions graves qui sont attribuables à la vitesse et au passage au feu rouge.
Oui, voilà. Donc, déjà, c'est des sites là, sur lesquels il pourrait être extrêmement bénéfique là, de mettre des photoradars. On a aussi fait une cartographie là, de nos zones scolaires. Puis, à la Ville de Montréal, là, c'est 550 écoles, 800 zones scolaires, dont 100 qui sont sur le réseau artériel aussi, qui est plus difficile à sécuriser, donc, où on pourrait vraiment bénéficier de cette technologie-là. Là. D'où encore une fois, la volonté là, de pouvoir avoir le plein contrôle sur les emplacements des photoradars, mais aussi leur nombre, puis le traitement là, des sanctions qui viennent avec.
Dans une ville qui est souvent encombrée par des travaux, est-ce que vous croyez que les citoyens s'adapteraient assez facilement à ces changements?
Par rapport aux photoradars, vous...
Et à la limite de vitesse.
Oui, tout à fait. Comme je le mentionnais, il y a des changements qui se font à chaque année. C'est sûr qu'il faut accompagner les gens dans le changement. Quand on vient changer la configuration des rues, le sens des rues, il faut le faire avec nos communautés, il faut le faire avec les partenaires institutionnels du secteur, on le fait avec le SPVM. Donc, ça nécessite une gestion du changement. Mais ce qu'on entend de plus en plus et de manière de plus en plus récurrente de la part des citoyens et citoyennes, c'est de venir apaiser les déplacements, de venir sécuriser les déplacements. Malheureusement, on a eu une des années les plus meurtrières en matière de collision au Québec l'an passé. Et bien que le nombre de blessés graves diminue à Montréal, le nombre de décès demeure à peu près stable. Donc, il y a vraiment un effort collectif qui est à faire et on le sent là, de la part des citoyens et citoyennes qui veulent qu'on accélère la sécurisation et qu'on mette en place les mesures qui fonctionnent.
Mme Moserolle, est-ce que vous pensez que ça sera difficile d'obtenir du ministère des Transports du Québec là, d'obtenir la pleine juridiction sur l'utilisation et le déploiement des photoradars pour la Ville de Montréal?
Ben écoutez, là, le projet de loi est en commission parlementaire. Il y a différents acteurs de la société civile, différents groupes qui vont aller plaider différentes choses. Cela étant dit, sur la question de la sécurité routière, on collabore très bien avec le gouvernement du Québec. Puis on sent là, depuis le dépôt du plan d'action en sécurité routière une réelle volonté là, de s'impliquer au niveau du gouvernement dans la réduction là, du nombre de collisions. Donc on est optimiste, mais on va suivre ça de près parce qu'on souhaite vraiment pouvoir avoir accès à ces photoradars le plus rapidement possible puis les déployer le plus rapidement possible sur le territoire.
Sophie Moserolle, vous êtes responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne fin de journée.
Bonne journée.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
C'est aujourd'hui que s'est tenu à Ottawa le sommet national sur le vol d'automobiles. On sait, là, c'est un fléau qui a pris des proportions très importantes au Canada depuis la pandémie, notamment au port de Montréal qui est devenu une plaque tournante pour l'exportation de véhicules volés. Et c'est devenu, là, au fil du temps, un enjeu politique de premier plan. Le président de l'Association des directeurs de police, Pierre Brochet, a participé au sommet. Le directeur Brochet est également chef de police de la ville de Laval et on l'a au bout du fil. Directeur Brochet, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous retenez du sommet d'aujourd'hui?
Bien, premièrement, nous sommes très heureux de la tenue de ce sommet depuis déjà plusieurs mois, autant au niveau de l'Association canadienne des chefs de police que de l'Association québécoise. On mettait une certaine pression pour qu'on agisse. Et là, le ministre Leblanc nous a entendus et là, il a organisé cette rencontre-là rapidement. Donc, ça nous a permis, entre autres, de rencontrer les différents partenaires, hein, au niveau manufacturier, au niveau assurance, au niveau de l'Agence des services frontaliers. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. On voit ce qui se fait bien, mais on voit encore les avancées qui sont nécessaires pour régler le problème, à tout le moins réduire le nombre de vols d'auto. Parce que ce que j'ai tenu à souligner, c'est que, vous savez, il y a quelques années, les vols d'auto, c'était un crime contre la propriété. Hein, puis pas nécessairement priorisé, on va le dire, par les différentes instances. Depuis 2-3 ans, c'est ça, pas seulement un crime contre la propriété. Le crime organisé s'est infiltré dans les vols d'auto de façon très structurée. De plus en plus, on a des événements violents avec les vols d'auto. Donc, on arrête des individus qui sont armés. De plus en plus, on fonce sur les policiers. On a des policiers blessés. Donc, la dynamique a vraiment changé de façon importante. Donc, on est dans le haut niveau de crime organisé. Il faut être bien structuré, vous savez, pour prendre des véhicules, les voler dans une rue de Laval, les transporter, les amener au port, les envoyer en Afrique et les revendre là. Donc, on est face à un marché très bien organisé.
Est-ce que les services policiers au Québec ont augmenté de beaucoup les budgets pour lutter contre ce fléau?
En fait, ce qu'on a annoncé récemment, en fait, ce que la Sûreté du Québec a annoncé en partenariat avec les services de police du Québec, c'est l'utilisation d'équipes régionales mixtes. Entre autres, sur la Couronne-Nord, on a des équipes régionales mixtes qui sont actives, qui regroupent plusieurs services de police, dont Laval. Ce sont des équipes spécialisées à travailler le crime organisé. Ajouté à ça, dans le projet recherché de la Sûreté du Québec, donc ce sont des ressources qui sont dédiées maintenant, à partir de maintenant, puis pour les prochains mois, au vol d'auto. Donc, on parle plus de réaménagement, des réaffectations de ressources pour faire en sorte de combattre ce phénomène-là.
Est-ce que les citoyens peuvent avoir l'espoir que la situation va s'améliorer? Parce que je regarde, là, directeur Brochet, le nombre de préoccupations que les services policiers ont à toutes sortes de niveaux. C'est un travail qui est très compliqué à être policier. Les priorités sont pratiquement infinies. Est-ce qu'on peut croire que vraiment il pourrait avoir une politique cohérente, coordonnée pour vraiment mettre un, je dirais pas mettre un terme à ça, ça arrivera pas un terme, mais à tout le moins diminuer de façon considérable les vols de voitures.
Bien, vous avez raison, hein, les services de police, on en a parlé aujourd'hui, nous, on a rencontré d'ailleurs le ministre Leblanc, l'exécutif de l'Association canadienne cet après-midi. On a fait part de toutes les priorités qu'on avait à gérer. Puis évidemment, j'ai demandé au ministre Leblanc lors de mon élection du financement, hein, pour adresser la situation. C'est le nerf de la guerre quand même, hein, avec du financement, bien, pas à court terme, mais à moyen long terme, tu peux régler des situations. Mais par-dessus tout, ce que j'ai tenu à dire, c'est il faut régler le problème de l'exportation des véhicules. Là, on est devant une situation où on a beau... le marché est très, très lucratif. Et on a beau faire des arrestations après arrestation, même travailler un peu plus haut au niveau du crime organisé. L'enjeu, c'est que le marché est très payant et c'est très facile d'exporter des véhicules, particulièrement, mais pas seulement le port de Montréal, mais particulièrement dans le port de Montréal. Ce qu'on a demandé, les associations, c'est que l'Agence des services frontaliers du Canada soit mieux financée. D'ailleurs, récemment, au cours des derniers jours, il a annoncé 28 millions supplémentaires. Mais non seulement soit mieux financé, mais que ce soit une priorité pour eux. Vous savez, l'Agence des services frontaliers va beaucoup plus travailler sur ce qui rentre au pays que ce qui sort. Alors, et c'est pas priorisé ce qui sort du pays normalement, et on va prioriser la drogue, les armes et tout ce qui a rapport au terrorisme. Maintenant, il faut vraiment changer nos façons de faire. Donc,
bon, changer nos façons de faire, on l'a entendu plus tôt cette semaine, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, suggérait l'utilisation de scans. Il dit, si on mettait des scans dans le port de Montréal, là, on pourrait scanner les conteneurs, retrouver des voitures et ce serait une bonne façon de procéder. Est-ce qu'il a raison de dire ça?
Ben écoutez, un des éléments, c'est les technologies. C'est clair que les technologies, il faut étudier tous les aspects technologiques qui peuvent nous supporter. Bon, je croirais que, évidemment, si tu utilises davantage les scans, que tu vas localiser plus de véhicules. Mais en même temps, c'est la logistique qui est impressionnante. Donc, ça prend du personnel sur la SFC pour faire ces inspections-là. Et une fois qu'on trouve les véhicules, c'est toute une gestion. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec les véhicules, la collaboration avec les corps de police? Donc, oui, c'est un pas en avant. Vous savez, demain matin, si j'étais en charge de la SFC, je dirais, bon, probablement, je dirais, ça nous prend plus de technologie pour les trouver, les véhicules, mais c'est pas la seule solution, évidemment.
Bon, et des sanctions pénales plus importantes. On sait que M. Poilievre a évoqué ça, et aujourd'hui, les libéraux de Justin Trudeau ont dit grosso modo la même chose. On pourrait augmenter les sanctions criminelles.
Mais je pense que c'est important. Vous savez, actuellement, on fait une arrestation, un vol d'auto. On en fait beaucoup. Vous savez, juste à Laval, en 2023, on a 70 arrestations pour vol d'auto. Mais en fonction de la loi actuelle, on doit les libérer presque sur le champ. Donc, on les arrête, on détient quelques heures, puis on les libère avec une promesse de comparaître. Quand ils ont des récidives, des fois, on peut les garder en détention une journée. Mais imaginez le jeune de 18-19 ans s'arrêter pour un vol d'auto, il est libéré dans les heures qui suivent, puis il recommence le lendemain. Donc ça, c'est un enjeu. En même temps, quand ils sont reconnus coupables, ben il faut que les sentences soient cohérentes avec la situation de crise actuelle. Il faut que le système de la justice suive en disant, là, on n'est plus, comme je le disais au début, d'un crime contre la propriété normale. On est à travers d'un réseau très bien structuré et des gens de plus en plus violents. Puis là, c'est devenu un enjeu de sécurité autant pour le citoyen que pour les policiers.
Et il va falloir aller jusqu'au haut de ces réseaux-là.
Exactement, oui.
Eh bien, directeur Brochet, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne journée. Pierre Brochet est chef de police de Laval. Il est également président de l'Association des directeurs de police.
Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
Bien oui, est-ce qu'on pourra se commander une bière à 5h du matin dans un bar d'une rue festive de Montréal? C'est la question qu'on peut maintenant poser parce que l'idée est lancée. L'idée, c'est de garder des bars ouverts toute la nuit et c'est ce que propose la Ville de Montréal avec sa politique de la vie nocturne. J'en parle avec Pierre Thibault. Monsieur Thibault est président de la nouvelle Association des bars du Québec. Il est aussi propriétaire de la taverne Saint-Sacrement et du restaurant Le Pontiac sur l'avenue du Mont-Royal. Monsieur Thibault, bonjour.
Bonsoir.
Monsieur Thibault, comment vous réagissez à cette idée-là de la ville de Montréal?
Ben, en fait, tu sais, je vais prendre le temps d'expliquer la situation où il y a un certain écosystème qui fonctionne présentement dans la vie nocturne de Montréal, puis le milieu des bars. Puis il y a un équilibre qui a été créé après des décennies, qu'il y a une collaboration aussi avec tout ce qui est au niveau du SPVM, la sécurité publique, qu'on semble avoir trouvé une vitesse de croisière où on fait pas les manchettes pour étant genre des nuits dangereuses à Montréal ou des nuits turbulentes. Bon, il y a toujours des exceptions. C'est sûr que c'est dans des villes de 5 millions et 6 millions, ça peut arriver. Donc, je voudrais pour l'instant, on regarde ça de loin. On n'a pas été consulté. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Puis, si je parle au nom de l'association présentement, c'est pas une opportunité que tout le monde semble dire « Ah, good, let's go, on va pouvoir peut-être en capitaliser sur cette option-là ». Il y a un gros enjeu par rapport à l'équilibre qu'on a créé au fil des années dans le milieu des bars puis de la restauration qui pourrait être perturbé et impliquer des services comme l'SPVM ou je donne un exemple, sans dramatiser, là, je fais attention parce que je sais que derrière ça, il y a des gens de Montréal la nuit ou puis de M. Rabouin qui ont travaillé. On n'a pas vu des études, on n'a pas vu d'expertise, on n'a rien vu. Fait qu'on y va d'une opinion présentement. Mais déjà, de sécuriser les employés à 3h du matin, quand ils quittent le milieu de travail, c'est toujours un stress qu'on a en tant qu'employeur. Donc, l'idée de voir peut-être des quarts de travail se terminer à 6h du matin avec un degré ou un facteur d'intoxication de plus en plus présent, parce que, bon, la nuit, la nuit éternelle amène son lot de clients, je dirais, ou de clientes moins agréables. Donc, on a une certaine crainte par rapport à ça, puis je serais curieux de voir c'est quoi les études qui ont été faites. Pour l'instant, je voudrais pas tout de suite lancer une pierre aux gens qui ont travaillé sur ce projet-là, mais je peux pas vous dire que ça fait sauter de joie mes membres ou les gens avec qui j'en ai parlé qui ont des établissements à Montréal.
Il y a des gens qui diront sans doute, écoutez, Montréal, c'est une ville festive, c'est une ville où on aime ça festoyer, et il serait simplement normal que certains bars soient ouverts toute la nuit. C'est quand même une idée qui est là depuis longtemps. Je pense que même l'ancien maire Coderre l'avait évoqué. Est-ce que vous voyez quand même un potentiel côté positif ou c'est plutôt non, ça non, c'est non, un...
l'idée des gens de Montréal 24 qui travaillent sur ce projet-là, que bon, je parle de Mathieu Gendron qui est quelqu'un qui est super impliqué. On peut pas impliquer le modèle européen où les gens sortent de table à 23h ou à 22h30, ça a été repris dans les médias. Ça, c'est la première affaire. Tu sais, malheureusement, d'une certaine façon, les Nord-Américains, on sort de table à 18h30, 19h, puis bon, pour la majeure partie des gens. Donc, si on arrive dans le mode digestif, si je peux m'expliquer comme ça, ou d'aller prendre un verre, quand il est 2-3 heures du matin, on a des gens qui ont déjà dépassé la limite, puis c'est une question de gestion, puis c'est l'exception à la règle, parce que dans la majeure partie du temps, les gens savent, je pense, consommer raisonnablement, puis il y a des campagnes qui sont faites de autant de la sécurité publique que même à l'interne dans nos établissements. Donc, encore une fois, je pèse mes mots, mais la question qu'on devrait poser, c'est non, est-ce que c'est sur un certain laps de temps, on le fait pendant 80 jours, pourquoi on ne fait pas la fête nationale du Québec 48 heures, ou tu vois, ou un événement précis, puis on va chercher des exemples. Je trouve juste que c'est rapide un peu comme intégration, puis je vous dirais que dans le peu de connaissances qu'on a, c'est pas très rassurant. Mais je veux pas être négatif, puis je fais attention parce que je connais ces gens-là qui ont travaillé pour ce projet-là, mais il y a un facteur qu'on connaît pas, qui nous est complètement inconnu. C'est la première fois qu'on va avoir ça en Amérique du Nord, des bars. Est-ce qu'on va avoir, puis encore une fois, je fais des mots, on va avoir des Ontariens sur la brosse qui vont débarquer, qui vont venir foutre le bordel? Est-ce que on va devenir un pôle touristique pour les gens qui veulent juste se torcher jusqu'à 8 heures du matin? Faut quand même y penser, tu sais. On n'a aucune ressource. Le SPVM est déjà débordé. Il y a plein, tu sais, j'énumérerai pas tous les problèmes que le SPVM peut avoir à gérer la nuit à Montréal dans les hautes saisons. Mais il me semble que ça va vite. Le train passe vite, on n'a pas été consulté.
Mais ça, c'est une chose, la consultation. Comment se fait-il que vous n'avez pas été consulté? Il n'y a jamais personne de la ville là qui, au moment d'établir cette politique de la vie nocturne, qui vous a appelé.
Non, honnêtement, puis je veux dire, écoute, c'est pas un blâme que je fais, mais au sein de l'asso, on a des gens qui ont un ou deux établissements, puis on est quand même présents sur toute la plage horaire, des restos, des tavernes jusqu'au club. Puis on n'a pas eu d'indication de ça. C'est arrivé un peu comme c'est accepté, c'est une zone test. Je sais pas si c'est le climat politique présentement, on s'en va en élection, on veut satisfaire le plus de monde possible. Puis tu sais, je suis pas en train de cracher dans le soupe non plus de M. Rabouin, qui est le maire du Plateau Montréal, le directeur du développement économique de Montréal. Je trouve que le train va vite présentement, puis on n'a aucun exemple. Fait que est-ce que ça va être à titre exploratoire? Est-ce qu'on va le faire pendant un mois, on va faire des études? Faut faire attention. Puis la pénurie de main-d'œuvre qu'on avait à l'époque, qui est maintenant, qui semble se résorber, il n'y a personne qui va vouloir prendre le chiffre, si vous me permettez l'anglicisme, de 3h du matin à 8h le matin au coin de Saint-Denis, Ontario. Je sais pas quel employé qui va vouloir vraiment aller se compromettre dans cette plage horaire-là. Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est pas des chiffres super intéressants. Donc, est-ce qu'on va éloigner la main-d'œuvre qui était si loin pendant 2-3 ans? De notre industrie, ça aussi,
il
faut y penser.
Mais il me semble avoir entendu la mairesse de Montréal, Valérie Plante, déclarer qu'aucun bar ne serait obligé de rester ouvert à des heures prolongées.
C'est super pertinent ce que vous dites, parce que si c'est une permission qui est donnée, puis ça peut donner un peu de latitude, de laxisme ou de latitude pour une fermeture. Parce que présentement, il y a un contre-coup aussi. Quand on annonce à tout le monde à 2h59, c'est fermé une classe quand on met tout le monde dehors, ça provoque aussi des fois des conflits au bout de la résistance. Donc, si c'est un choix qui est une option, puis qui s'est intégré de cette façon-là, c'est différent. Mais de la façon que ça nous est vendu présentement, autant par les médias que par... je vous dirais, les instances qui s'en ont occupé de ce projet-là, c'est juste qu'on est mal renseigné. C'est difficile pour nous de se positionner. Puis,
donc, vous voulez essentiellement avoir plus d'informations et puis ben, c'est certainement compréhensible puisque vous êtes les premiers intéressés. Pierre Thibault, vous êtes président de la nouvelle Association des bars du Québec. Merci d'avoir été avec nous.
Merci. Bien.
Bonne journée.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.